a dit que la presse marseillaise était en crise. Cinq jeunes journalistes ont pris l'initiative un peu folle de fonder un mensuel d'information générale sur la ville de Marseille. Le numéro 2 de V Marseille est en kiosque depuis le 1er février. Et pour nous en parler, nous recevons Pauline Pidou et Eric Bézati. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors V Marseille, c'est avant tout un défi entre collègues.
C'est ça, on était plusieurs, après deux années d'exercice, après notre école de journalisme, à se dire, bon, ben, on le fait pas, on a, tous les journalistes en ont rêvé, et nous, on a monté le projet, on a vu la réalité économique et la viabilité d'une telle entreprise, et on y est allé, quoi. On avait vraiment, vraiment envie de le faire, et entre guillemets, de proposer et de construire notre propre ligne éditoriale.
Et pourquoi avoir choisi la ville de Marseille, justement ?
Alors Marseille, pour l'aspect bon client de la ville, la ville est la deuxième ville de France, est super intéressante au niveau des problématiques qui l'accompagnent. Au niveau injustice, enfin au niveau fracture qu'il y a dans la ville, c'est intéressant de les traiter. Au niveau le paysage politique est on ne peut plus théâtral. Et puis on a besoin d'une grande ville pour lancer un projet médiatique. Et Marseille, ça nous intéressait. Moi, j'ai travaillé depuis 4-5 ans déjà avec mes stages et mes deux années d'expérience. J'ai un peu réussi à convaincre toute la bande de venir à Marseille. Et bien sûr, 2013 a pesé dans la balance et 2014 avec les élections municipales qui seront des années riches en informations, quoi.
Vous, dans la rédaction, donc vous êtes 5, la moyenne d'âge 23 ans. Et là, vous apportez plutôt un regard neuf, un regard frais, un regard jeune, puisque en plus, vous n'êtes pas originaire de Marseille, hein, pour la plupart.
Non, alors on est deux à être de Provence, enfin, on vient d'Arles, et les autres, c'est vrai qu'ils viennent un peu plus des quatre coins de la France. On a des Normands,
des Nantais.
Oui. Donc peut-être que ça aide à avoir un regard neuf sur la ville, enfin on essaye en tout cas.
Voilà, un regard neuf, mais on essaye de pas être naïf. On essaye quand même de rencontre beaucoup de personnes, on lit beaucoup de personnes, on fait notre travail très consciencieusement, pardon. Et on n'est pas écœuré parce que de certaines choses qui se passent à Marseille, notamment dans le milieu politique ou alors des blocages structurels de la ville. Nous, on n'en est pas écœuré encore. Parce que ça fait on n'a pas 5 ans, ça fait pas 5 ans qu'on remarque les mêmes choses. Vraiment, là, on explore la ville et on la décrit en même temps.
Pourtant, en plus, je veux dire, votre philosophie de travail, un petit peu en tant que mensuel, c'est pas d'actu, pas d'actualité shot, pas de scoop, mais surtout de l'information.
Ouais, voilà, ça sonne bien, là, c'est le slogan. On fait pas de l'actu, on fait de l'info. Voilà, après, c'est simplement le fait de se dire, nous, on ne suit pas l'actualité, mais on traite des sujets, on problématise un peu plus les sujets quand on les traite. C'est pas l'actualité qui fait l'information, mais c'est plus une problématique. On n'a rien inventé non plus, hein, c'est vraiment du journalisme dans tout ce qu'il y a de plus classique.
Très proche, avec une grande proximité quand même auprès des Marseillais dans ce que vous abordez.
Ça, c'est notre approche territoriale. Vraiment, on essaye tous les mois, par exemple avec le cahier quartier, de faire 5 pages sur un quartier en particulier, en rencontrant un peu des gens. Et voilà, là, sur ce genre de sujet, il n'y a vraiment pas d'actu, quoi. Vraiment, on s'intéresse au sujet parce que c'est un territoire donné. Et du coup, on va rencontrer les gens et on propose une retranscription sur 5 pages de ce qu'on a pu remarquer. Bon, c'est fait en 15 jours, donc voilà, ça a ses limites aussi. C'est pas de l'anthropologie, c'est pas de la sociologie, mais on fait notre travail de journaliste. On a 15 jours grosso modo pour aller sur le terrain et on va tirer un petit peu ce qu'on peut du territoire où l'on va. C'est vrai que sur la proximité avec Marseille, on avait le concept de se baser sur un peu les gros mots, la sociologie sociologie de la ville pour créer notre ligne éditoriale. Et ça, ça se voit, par exemple, on a créé deux pages qui s'appellent Block Party, où on va dans les quartiers réputés sensibles pour raconter plus la réalité sociale que le dernier coup de Kalachnikov et le trafic de drogue. Et dans l'approche territoriale aussi, on a deux pages Méditerranée qui s'intéressent systématiquement tous les mois à la vocation portuaire de la ville et à Marseille, cette ville monde qui est connectée avec tous les continents.
Voilà, justement, pour prendre exemple, hein, dans le premier numéro, une enquête sur le marché des puces menacée par le projet d'Euroméditerranée.
C'est vrai, c'est ce qu'on a remarqué pour les puces quand on y est allé. On a vu que finalement, c'était un marché, c'était le fruit de l'histoire, c'était super structuré, même s'ils avaient la réputation de commerce, entre guillemets, pas propre, tout ça. C'était super structuré et ça servait la ville de Marseille. Alors, pourquoi une telle mauvaise réputation? On s'est dit, bon, mais c'est que Marseille tourne le dos à son réel ADN aussi un petit peu. Et du coup, nous, ça nous intéresse d'aller dans les endroits où vraiment... Marseille fonctionne, quoi. Le marché aux puces, malgré la mauvaise réputation qu'on peut lui coller, c'est une super construction marseillaise. Bien sûr, il y a des défauts, mais déjà le fait de rassembler des commerçants qui font à la fois de la qualité, mais avec des bons plans pour avoir des prix pas chers, c'était super intéressant de voir un peu le ressort du marché aux puces dans la ville, et notamment à l'heure de Romède 2, où voilà, le quartier veut se transformer en secteur de service, avec des emplois dans le service, des appartements bien plus cher et beaucoup plus joli. Enfin voilà, Marseille souvent n'est pas contente d'avoir une image un peu comment dire, rustique, et essaye de mettre un peu des coups de peinture dans tous les sens pour se rendre joli, mais il faut savoir que parfois, même si c'est pas très beau à voir, c'est une vraie richesse pour la ville.
Bon, on ne peut pas dire non plus que vous êtes ni de gauche ni de droite, mais quand même des prises de position sur des dossiers importants comme cela.
Oui, voilà. Alors, notre but, hein, c'est que les gens de droite croient qu'on est de gauche et les gens de gauche croient qu'on est de droite. C'est vraiment, nous, on n'a qu'une carte, c'est notre carte de presse. Nous, on va sur le terrain et on pose les questions, voilà, les questions qui sont légitimes, les questions que se posent les citoyens. Voilà, on fait notre rôle de rouage dans la démocratie sans parti pris. Mais parfois, on peut dire, bon, mais écoutez, voilà, on a fait cet article, on a fait cette enquête. Voilà, on a un petit pouvoir de proposition. Les journaux, c'est intéressant de lire des idées nouvelles qui émergent dans les journaux. Voilà, on peut se permettre de, par exemple, là, dans le dernier numéro, il y a eu une prise de position sur la sous-traitance, où voilà, l'article, c'est sous-traitance et défaillance. C'est-à-dire, on a remarqué que le système de la sous-traitance dans le bâtiment créait un bazar monstre et que c'était ni bénéfique pour le secteur du bâtiment, ni bénéfique pour les bâtiments eux-mêmes. C'est-à-dire que ça profite à des grands groupes, aux intermédiaires, mais le travail est mal fait et les travailleurs sont mal payés. Voilà, donc ça, par exemple, on a pris une prise de position tranchée, sous-traitance et défaillance, et on explique dans le papier, voilà, quels éléments et quels arguments poussent à avoir ce point de vue-là.
La rédaction, je crois, donne des notes aux personnalités politiques, donc prendre quelques exemples, quelques mauvais élèves. Dominique Tian, le député 1 sur 10. Jean-Luc Benamias, député européen Modem, 2 sur 10. Comment est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, on va essayer de faire réagir la population marseillaise face à ces acteurs politiques?
C'est vrai que c'est un peu des entrées de lecture rigolotes d'avoir une note et avec un élu à côté. Après, on s'est dit, on note les footballeurs, pourquoi pas les élus, ils font autant de... Enfin voilà, c'est aussi un spectacle, la politique, il y a des prises de position théâtrales, voilà. Nous, on note en fonction des critères républicains, c'est surtout pour rigoler, hein. On met des mauvaises notes, des bonnes notes, sur des choses qui nous ont fait tiquer, voilà. Après, ça permet aussi aux lecteurs auditeurs de se faire une idée et on reçoit, voilà, si des gens ont envie de nous envoyer des notes, on est capable de les regarder aussi parce que c'est toujours intéressant voilà, d'être une vigie. Ça aussi, c'est le rôle des journalistes de façon générale dans la société, hein, c'est d'être une vigie des acteurs politiques, des institutions, des collectivités, tout ça. Enfin, il faut veiller sur ces gens-là, faut pas les laisser sans surveillance, quoi.
Alors, il y a une personnalité politique qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers temps. Il est d'ailleurs en une de V Marseille. C'est Bernard Tapie, désormais patron de presse du groupe Air Sound Media et propriétaire du journal La Provence. Donc, en lisant votre dossier, on se demande si finalement la presse écrite n'avait pas besoin d'un homme aussi riche et puissant que lui pour relancer la machine.
On a posé la question, mais c'était plutôt de façon humoristique. Bernard Tapie vient-il pour sauver la presse et assurer son rôle de contre-pouvoir dans la démocratie ? Certainement, on finit l'article comme ça, mais c'est de l'ironie. Voilà, on a vraiment vu que, voilà, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il va faire encore, seul l'avenir le dira, mais on a vu comment le fait que, voilà, que Tapie rentre dans le jeu, ça bouleverse beaucoup de choses au niveau politique et médiatique. Donc voilà, on a deux angles, un politique, voir qui l'appuie, qui est fondamentalement contre, quel jeu il pourra faire. Voilà, on donne les scénarios un peu possibles. Et dans les médias, on est un peu allé voir du côté de La Provence un peu ce qui se trame, quelles sont les inquiétudes des journalistes. Et on est allé voir aussi du côté de l'ambition d'extension du groupe, du groupe que souhaite construire Bernard Tapie, qui se composerait de radio, de télévision et d'internet. Voilà, lui il dit vraiment la presse papier en tant que telle, c'est terminé, maintenant il faut faire des groupes puissants au niveau audience, et du coup mélanger la radio, mélanger la télé et mélanger la presse. Et du coup, c'est pour ça que c'était intéressant de voir dans quelles conditions Marseille reçoit Bernard Tapie, quoi. Avec quelques révélations, mais ça, il faut l'acheter. Enfin, quelques révélations. Voilà, on met à un temps T tous les scénarios possibles et imaginables autour de l'avenue de Bernard Tapie.
Et surtout, quand on connaît sa personnalité, on se doute bien que tout est possible pour lui ici à Marseille. Il est en quelque sorte idolâtré pour ses exploits sportifs avec l'OM au début des années 90, lorsqu'il en était le président. Mais en revanche, pour la classe politique, c'est une réelle menace. On sait qu'il a cette faculté à conquérir le peuple. Vous avez pu en parler avec lui ?
Oui, alors on l'a appelé, mais il n'a pas souhaité répondre en disant qu'il avait déjà beaucoup parlé à la presse et que voilà, il ne pouvait pas donner suite. Mais il nous a conseillé de travailler sur lui, voilà.
C'est
ça qu'on se voit. Il adore qu'on parle de lui, hein, d'ailleurs, ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Et en plus, d'autres personnalités politiques, hein, bien sûr, ont réagi à ces nouvelles.
Jean-Claude Gaudin et Jean-Noël Guérini étaient rassurés par la venue de Bernard Tapie.
Et vous, en tant que journaliste de presse, c'est quelque chose qui vous concerne énormément, cet avenir de la presse marseillaise, représenté par Bernard Tapie. Vous avez rencontré les journalistes de La Provence. Est-ce qu'ils savent réellement ce qui les attend, tout simplement?
Non, franchement, ils en savent rien. Voilà, et c'est pas les premiers informés non plus. Il y a eu quelques rencontres fin décembre. Il y a eu un audit par Patrick Lelay en fin du mois de janvier. Voilà, ils attendent de savoir un petit peu courant février, voire fin février, quel plan. Et au niveau éditorial et industriel, qu'est-ce qui sera proposé pour faire évoluer le journal. Mais c'est clair qu'il va se passer des mouvements, les choses vont bouger à La Provence.
Et puisqu'on parle de la situation de la presse marseillaise, vous connaissez peut-être le magazine 8e art,
le culturel gratuit.
Voilà, un bimestriel d'information culturelle. Le 25 janvier, la rédactrice en chef Emmanuelle Gall était notre invitée et on lui a justement posé la question de ce qu'elle pensait de ce nouveau venu sur le marché de la presse marseillaise, V Marseille. Je vous propose d'écouter sa réaction, c'était au micro de Stéphane Galland.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la santé de la presse à Marseille ? Il y a, par exemple, un nouveau magazine qui vient de voir le jour qui s'appelle V Marseille.
Ouais.
Des petits jeunes qui se lancent dans cette aventure-là, qui ont mis toutes leurs économies et qui font un payant, par contre.
Ils sont courageux, ouais. Mais moi, j'ai peur pour eux. Je m'inquiète pour eux, sincèrement. Aujourd'hui, je partirai pas dans cette direction-là. Je pense qu'ils ont, raison d'essayer. Mais j'en connais d'autres qui ont essayé, qui se sont cassés les dents. Je pense que pour espérer vendre de la presse aujourd'hui, il faut vraiment avoir quelque chose à vendre qui donne un plus tel au lecteur que le lecteur est prêt à payer. Et quand je vois V Magazine, ce n'est pas le sentiment que j'ai.
V Marseille, ouais.
Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est une jolie aventure, mais ils sont un peu jeunes. Et ils n'ont pas un apport éditorial qui fait que les gens vont s'abonner dans toute la France. Quand Mediapart arrive à peu près à ça, c'est parce qu'ils ont des pointures pas possibles, quoi.
On est d'accord avec ce qu'elle raconte. Vraiment, il faut une plus-value éditoriale aujourd'hui pour faire acheter la presse. On n'achète plus la presse de façon systématique. Il faut que les lecteurs trouvent leur compte. Clairement, j'investis 3,50, je veux avoir de l'info, je veux avoir des choses qui me... Voilà, et un plaisir de lecture, je veux avoir un bel objet, je veux avoir quelque chose qui est pratique pour moi. Voilà, après, à nous de faire en sorte que notre produit vale ses 3,50 et trouve son lectorat. Voilà, nous, on a choisi vraiment de s'orienter vers la presse payante parce qu'on considère que l'information a un prix et que le lecteur doit le savoir parce que voilà, nous, on est financé par la publicité, on fait de la vente au numéro et on fait de l'abonnement. C'est grâce au lectorat qu'on existe. Donc voilà, nous, on n'a pas le droit de ne pas vendre et de ne pas intéresser. Après, bien sûr, si elle considère que voilà, notre offre éditoriale est pas assez étoffée, voilà, ben elle n'achète pas notre journal et du coup, ça nous fait un lecteur en moins. Alors que peut-être qu'elle est potentiellement attrapable, celle-là, parce qu'elle aime bien l'info. Donc voilà, à nous d'évoluer. Bien sûr, on est au deuxième numéro et clairement, on est là pour durer et on a fait tout en sorte au niveau modèle économique et c'est en train de progresser et le prochain numéro est toujours le meilleur. C'est-à-dire, voilà, on fait des choses de qualité et on augmente à chaque fois notre connaissance du territoire, notre approche journalistique. Enfin voilà, on est dans la progression et je pense pas que la jeunesse dans ce cas-là soit un frein.
Et puisqu'on parle de cette évolution de cette jeunesse bercée par Internet, c'est un modèle économique qui ne vous a pas séduit pour fonder votre média.
Outre le fait qu'on voulait faire un bel objet, vraiment, on voulait quelque chose qui garde en bibliothèque, qui se tienne en main, quelque chose qui fasse plaisir à lire et qui se lise pas devant un écran. Outre ce fait-là, bien sûr, au niveau rentrée publicitaire. C'est pour l'instant encore plus facile de financer un projet éditorial en payant des journalistes avec un support papier parce que la pub, les circuits de la pub papier sont déjà bien faits, bien rodés et on arrive à avoir des retombées grâce à l'achat d'espace dans notre magazine. Et sur Internet, voilà, c'est encore balbutiant. Enfin, voilà, il y a certains sites qui arrivent à se financer grâce à de la pub, mais c'est très très rare. Voilà, Mars Actu, le fondateur, y a mis des billes personnelles parce que pour l'instant, l'équilibre n'est pas encore là. Bien que ça, avec l'audience qu'ils font, ça commence à répondre. Voilà, nous, on voulait d'abord faire un joli papier et le modèle économique du papier, il est plus stable entre guillemets que celui sur Internet encore en ce moment.
vous avez quand même eu une bonne couverture médiatique, et même de la part de médias nationaux comme TF1 ou Libération. C'est quelque chose qui vous motive, ça, maintenant, pour continuer? Vous vous dites, ben voilà, on a peut-être réussi une première étape, maintenant on s'inscrit clairement dans la continuité?
C'était, on a eu la conjoncture de plein de choses. Tapi venait de racheter la Provence, donc il y avait l'intérêt des médias nationaux pour la presse marseillaise. Il y avait le fait que c'était un 4 janvier, et l'actualité le 4 janvier, eh ben, on n'a pas été éclipsé par quelque chose de gros au niveau politique, au niveau social. Donc du coup, ça intéressait les confrères. Voilà, et puis il y avait nous, on est convaincus de ce qu'on fait, donc on a communiqué là-dessus, et enfin, entre guillemets, notre honnêteté dans la démarche, elle a un peu plu, parce que voilà, c'est, enfin, il y a le côté un peu folklorique, c'est une belle aventure racontée, c'est des petits jeunes qui se montent, ils ont envie, ils font ça sur papier, oh là là, pourquoi ils font ça sur papier alors que c'est archaïque, enfin voilà, c'était un peu de ça qu'on a bénéficié, mais c'était sympa de la part des confrères, d'ailleurs, qui nous ont bien appuyés. Et voilà, maintenant, nous, il faut garder notre lectorat. Enfin, il faut même le développer, et il faut qu'on soit de plus en plus pertinent, comme disait la rédactrice en chef de 8e art. Il faut vraiment proposer de la plus-value éditoriale pour pouvoir exister.
Vous avez quand même, d'une part, réussi un peu votre coup d'entrée de jeu. Hein. Vous évoquiez des kiosques en rupture de stock dès la sortie du premier numéro.
Ben alors ça, c'est aussi les ajustements qu'on doit faire avec le distributeur qui est Prestalis. C'est que dans le centre-ville, c'est parti comme des petits pains. Voilà, on a eu un reportage sur le 13h de TF1. Tout est parti d'un coup dans le centre-ville. Et on a dû faire un retirage pour pouvoir livrer tous les kiosques. Après, voilà, on n'a pas encore les chiffres de vente définitifs, mais on sait que c'est un bon démarrage.
Vous en avez vous en avez tiré 5000 exemplaires à peu près en tout.
Voilà, on a fait un tirage à 5000, plus on a tiré 1500 de plus. Non, c'est déjà un beau tirage.
Un autre sujet aussi auquel on ne peut pas échapper, c'est Marseille-Provence 2013. Vous comptez surfer un peu sur cette vague culturelle pour le magazine, ou c'est pas vraiment une priorité?
Oui, alors on a toute une rubrique culture quand même, on a 5-6 pages de culture. Donc oui, on ne peut pas passer à côté de Marseille-Provence 2013, c'est sûr, on en parlera. Et c'est bien, enfin, ça nous permet aussi de voir plein de choses. Mais on va pas s'arrêter là, on va aussi voir ce qu'il y a à côté de Marseille-Provence 2013. Il y a le off, il y a le out, tout ça, mais aussi d'autres choses qui se passent hors ces cadres. Donc, mais oui, c'est...
Eh bien, on se donnera rendez-vous le 1er mars. Merci Eric Bessatti et Pauline Pidou d'être venus nous parler de ce numéro 2 de V Marseille en kiosque depuis le 1er février.
Merci beaucoup.
Merci.